Radio Okapi.
Le chef de l'État se porte bien et n'a jamais été opéré en Belgique. Mise au point de la porte-parole adjointe du chef de l'État, c'est vendredi à Radio Okapi à la suite des informations en ligne faisant état d'une opération à cœur ouvert subie par le président Tshisekedi. 6 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe de la Banque mondiale pour la réhabilitation du laboratoire de l'hôpital général de référence de Bounia. Le chef de la délégation, dépêché par le ministère de la Santé, l'a annoncé à la presse hier à Bounia. Gisèle Taboulea est notre invitée. Elle est la coordonnatrice nationale du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient lancé hier à Mbujimayi. Bonjour à tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, se porte bien et n'a jamais été opéré en Belgique. Cette précision est de Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État dans une interview exclusive ce vendredi à Radio Okapi. Cette réaction fait suite aux informations qui circulent en ligne faisant état d'une opération à cœur ouvert qu'aurait subi le président Tshisekedi en Belgique. Tina Salama précise que le chef de l'État, qui effectue une visite privée à Bruxelles, en a profité pour voir son médecin et faire un contrôle médical de routine. On écoute Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État, jointe au téléphone par Piero Elamegi.
Effectivement, nous avons tous été surpris de voir une information erronée circuler sur les réseaux sociaux également, ou dans certains médias, mal de sensation, parce que j'estime en tout cas que quand un média a besoin d'une information, il va à la source. On n'a jamais été contacté par aucun média pour vérifier. Et donc, du coup, on s'est réveillé comme ça. Les gens racontaient que les présidents avaient subi une opération à cœur ouvert. En tout cas, je tiens à vous rassurer, à vous dire que le président n'a subi aucune opération à cœur ouvert. Le président de la République se trouve à Bruxelles pour une visite privée. Il en a donc profité pour voir son médecin et faire donc ce qu'on appelle un check-up normal, donc un contrôle de routine. Donc son médecin lui a proposé de se reposer pour quelques jours. Il va très bien, il rentre à Kinshasa dans les prochains jours. On peut avoir une date précise, mais c'est à sa discrétion. Il peut décider d'avancer d'un jour, de reculer d'un jour. Donc c'est à la discrétion du chef de l'État lui-même. C'est selon son agenda, les rencontres qu'il a prévues de faire. Mais en tout cas, moi, je vous garantis qu'il va très bien. Il n'a subi aucune opération à cœur ouvert et qu'il revient à Kinshasa bientôt.
La semaine du 6 au 12 mars de chaque année est dédiée à la maladie de l'œil appelée glaucome. Il s'agit d'une des plus graves maladies de l'œil qui entraîne la cécité chez l'homme, affirme Dr Rosalie Kavouo de la clinique ophtalmologique de l'université du Graben. Elle explique au micro de Sadiki Aboubakar.
Dans notre œil, il y a un liquide qu'on appelle hyméraquèse. Alors, lorsque cette hyméraquèse augmente, ça augmente une hypertonie de l'œil, ce qu'on appelle glaucome.
Donc, la tension de l'œil augmente.
Voilà, la tension de l'œil augmente. La tension à question comprime les nerfs optiques, et puis les nerfs optiques est bousillé, puis on devient aveugle. Il y a des causes qui sont inconnues. Il y a les causes qu'on appelle congénitales. La femme qui naît avec est glaucome. La femme se présente avec des gros yeux. Dès les autres disent non, il a des beaux yeux, alors que c'est une maladie. Alors, dès qu'on amène l'enfant, le traitement, c'est vraiment chirurgical pour aller diminuer la pression de l'œil. En fait, le glaucome est la deuxième cause de la cécité après la cataracte ici chez nous.
Donc, il n'y a pas moyen de prévenir cette maladie?
La prévention consiste à consulter nos services avant le temps parce que c'est un traitement à vie. Il y a un caractère héréditaire dans cette maladie.
Au Sud Kivu, environ 25 000 personnes ont été vaccinées lors de la dernière campagne de vaccination de masse contre le Covid-19 en province. Ce sont des faibles résultats au regard des objectifs affichés, souligne la coordination provinciale du programme élargi de vaccination PEV au Sud Kivu. Ces derniers rappellent que les activités de vaccination de routine se poursuivent dans le centre de santé et hôpitaux sélectionnés. Docteur Joseph Matundania invite ainsi toutes les parties prenantes à s'impliquer pour une adhésion massive de la population à la vaccination contre le Covid-19 qui est d'une grande importance. Il est au micro de Cynthia Bachizi.
On a commencé la campagne, on devrait atteindre 45,2% de la population de notre province. Donc on devrait vacciner autour de 400 000 personnes. Malheureusement, nous avons atteint 25 000 personnes pour la campagne, mais si nous mélangeons les données de la routine, nous sommes dans les 35 000 personnes. C'est un bilan qui semble être très faible par rapport à la cible attendue, mais par rapport au point de départ. Parce que quand on a commencé, les gens ne venaient pas, mais quand même on a vu pendant la campagne, la population s'est mobilisée, peu soit-elle, pour prendre le vaccin. Comme il y a eu de fausses informations qui ont précédé la vaccination, la population a pris ces informations comme étant vraies et ça va prendre du temps pour que la population puisse comprendre. Raison pour laquelle nous demandons à toutes les forces de s'impliquer pour que la population puisse comprendre que le vaccin, il est important pour lutter contre la maladie à COVID-19. Parce que cette maladie, on va vivre avec. Et pour limiter la mortalité liée à COVID-19, c'est la vaccination. Encore une fois de plus, que la population prenne le vaccin.
La journée mondiale du Rhin est célébrée chaque deuxième jeudi du mois de mars. Cette année, elle est placée sous le thème « Santé rénale pour tous, améliorer les connaissances pour une meilleure prise en charge de la maladie ». À cette occasion, le sénateur Prince Kaoumba Lufunda, initiateur de la proposition de loi relative au don d'organes, à la transplantation d'organes, des tissus et cellules du corps humain, invite toute la communauté à une bonne hygiène de vie pour préserver la bonne qualité de nos reins. Le sénateur Prince Kaoumba, en vacances parlementaires dans le Lualaba, a été joint par Jean Gandou.
Dans le cadre de cette proposition, j'aimerais donc sensibiliser toute la communauté, attirer l'attention des soignants et des patients sur l'hygiène de vie pour préserver le fonctionnement de nos reins, parce que les maladies du rein sont une grande préoccupation de santé publique. À cette occasion, on attire l'attention sur l'hygiène de vie, les aliments qu'on recommande, tels que les choux et d'autres fruits, et des habitudes qu'il faut abandonner. Il faut consommer avec modération le sel, le sucre, abandonner l'alcool si possible, abandonner la cigarette si possible, consommer le moins possible les aliments transformés, veiller à bien dormir. Donc il faut une hygiène de vie pour renforcer la qualité, n'est-ce pas, du fonctionnement du rein, parce que les maladies rénales constituent une grande préoccupation de santé publique. Le message que nous aimerions passer, c'est celui d'une hygiène de vie et celui d'une meilleure connaissance de ce qui doit être fait pour que nous puissions préserver la qualité de nos reins et l'état de la santé de nos reins.
Bouclons ce chapitre santé. En Ituri, 6 millions de dollars américains sont alloués par la Banque mondiale pour réhabiliter le laboratoire de l'hôpital général de référence de Bounia. C'est le chef de la délégation dépêchée par le ministère de la Santé qui l'a annoncé à la presse hier jeudi à Bounia. Ce fonds, qui est déjà disponible, va aider notamment à réfectionner les locaux et équiper en matériel ce laboratoire devenu vétuste. Un projet qui vise à renforcer le système de surveillance des maladies pour lutter contre certaines épidémies, a déclaré le médecin chef de division sanitaire de l'Ituri. Le docteur Louis Tsulo dit que les échantillons prélevés étaient envoyés à Kinshasa et les résultats traînaient pendant une période assez longue. Il a été joint au téléphone par Jean-Claude Loki.
Le labo sera réhabilité, équipé, approvisionné en eau potable et avec deux sources d'énergie, l'énergie solaire et électrique. L'avantage, c'est pour l'analyse des échantillons à temps, tous les échantillons de l'Ituri, de toutes les zones de santé, peut-être même de Haute-Uele, peuvent être analysés et les réponses peuvent être données à temps opportun. Vous savez que quand les résultats sortent, ça permet d'orienter la décision. Si c'est négatif, on se rend compte que négatif, c'est bon, mais si c'est positif, on sait aussi quelle conduite à tenir par rapport aux résultats. L'Ituri a fait face à la 10e épidémie d'Ebola. L'Ituri a fait face à l'épidémie de rougeole, à la pandémie de Covid. Et puis il y a eu même la situation de peste dans le nord de la province. Donc tout ça, ça nécessite à ce que les labos soient réhabilités et que ça puisse bien jouer son rôle dans les examens paracliniques.
Retournons au Nord Kivu. Les agriculteurs de Mayangosé plaident pour la construction des écoles dans cette zone pour l'encadrement de leurs enfants. En effet, la vie a repris son cours normal à Mayangosé et à Kididiwe depuis plus d'une année. Ces greniers de la ville de Beni, jadis bastion de rebelles de l'ADF, est actuellement sous le contrôle des forces loyalistes et les habitants ont repris les activités agricoles. Guylaine Kassassia pour les détails.
Selon Paluku Nestor, président des cultivateurs de Mayangosé dans les Kididiwe, la vie a repris normalement dans cet ancien bastion EDF. Il salue la construction d'une chapelle dans la zone et descendue par les militaires FARDC, bien que ces derniers nécessitent un appui en médicaments au regard du besoin local. Actuellement, plus de 5000 cultivateurs s'y rendent pour effectuer leurs activités. Ces retours d'un nombre important de populations nécessitent la construction de certaines infrastructures nécessaires, estime Paluku Nestor. À Kididiwe, vraiment, le nombre des cultivateurs a sensiblement augmenté. Ils vivent bien et rendent aisément leurs travaux champêtres et le produit champêtre provient sans aucun problème. Ceux qui vivent actuellement sont plus de 250 ménages. Compte tenu du nombre d'enfants qui s'y observent, il nous faut une école. Il nous faut aussi un marché car un espace y est déjà prêt. Il ne reste que le lancement des activités. Mais aussi, il nous faut de l'eau propre pour que les milieux se développent. Nous vivons vraiment en franche collaboration avec le militaire. Pour rappel, c'est depuis le mois de novembre dernier qu'une base militaire construite sur fonds propres de la MONUSCO avait été remise au FARDC à Kididiwe en vue d'y restaurer l'autorité de l'État et assurer la protection des civils. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Une fille mineure âgée de 12 ans est portée disparue depuis mardi 8 mars à 16h dans la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. Il s'agit bien de Esteline Mboma, sortie ce jour pour les festivités de la Journée internationale des droits de la femme avec ses amis. Et depuis, elle n'est toujours pas retournée et aucune information de sa part. Son père, Crispin Mboma, sollicite l'intervention des autorités sécuritaires et des services de renseignement pour la retrouver. On l'écoute au micro de Irène Beaumont.
Je tiens à informer l'opinion de Bandundu et toutes les autorités sécuritaires ainsi que les services de renseignement de la disparition de ma fille Esteline Mboma, âgée de 12 ans depuis le 8 mars 2022. Pour une petite histoire, elle était sortie le 8 mars à 16h, habillée en pagne de couleur rouge, portant une chaussure de couleur blanche, accompagnée de ses amis. Arrivée au rond-point Bitula, ses amis ont rebrousser chemin. Elle a par contre désiré de poursuivre le chemin. Et depuis lors, nous n'avons aucun renseignement ni information de sa part. Depuis le 8 mars, ma fille Esteline Mboma est portée disparue. Nous sollicitons l'intervention des services urbains et provinciaux de sécurité ainsi que les personnes de bonne volonté pour retrouver notre fille encore mineure et élève en quatrième primaire.
Ici à Kinshasa, le plan de travail et le budget annuel 2022 du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement de cobalt ont été validés mercredi au cours d'une rencontre du comité de pilotage de ce projet sous la direction du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Moutinga. Lancé au mois de janvier 2022, ce projet financé par le groupe de la Banque africaine de développement a permis, après une mission effectuée récemment sur terrain, d'identifier dans les provinces du Lualaba et au Katanga environ 14 850 enfants et leurs parents ainsi que 6 250 jeunes tous impliqués dans la chaîne d'approvisionnement de cobalt. Maître Alice Mirimo, coordonnatrice de l'unité de coordination du projet Pabea Cobalt et directrice générale du Fonds national de promotion et de services sociaux, parle des perspectives de ce projet au micro de Jean-Marc Matouaki.
Les perspectives d'avenir sont bonnes. Déjà cette année, nous avons prévu la construction de 40 infrastructures sociales. Il y a 20 centres de rattrapage scolaire, 10 centres de santé et 10 écoles. Mais il y aura aussi deux grands centres de formation professionnelle où nous allons avoir des modules modernes par rapport aux métiers du secteur agricole et du secteur minier. Il y aura aussi deux grands centres en entrepreneuriat, en agro-business, un à Kolwezi et un autre à Lubumbashi. En fait, l'objectif, c'est vraiment offrir à nos jeunes, à notre population, d'autres opportunités d'emploi, d'autres opportunités d'affaires aussi. Ce projet vise comme objectif principal de sortir tous les enfants de la chaîne d'approvisionnement du cobalt pour que notre cobalt garde sa valeur et que cette chaîne soit une chaîne responsable avec zéro enfant.
Actualité internationale.
Les 9 millions d'habitants de la ville chinoise de Changchun, dans le nord-est du pays, ont été placés en confinement. C'est ce qu'ont annoncé ce vendredi les autorités locales au moment où la Chine fait face à sa plus grave flambée de Covid-19 depuis 2 ans. Seule une personne par foyer est autorisée à sortir une fois tous les 2 jours, a fait savoir la mairie. La Corée du Nord testerait un nouveau système de missiles intercontinentaux. Les tirs effectués par la Corée du Nord le 26 février et 4 mars visaient à tester les éléments d'un nouveau système de missiles balistiques intercontinentaux, a affirmé hier jeudi un haut responsable de la Maison Blanche, qualifiant ces essais d'escalade grave. Ces tirs sont certainement destinés à tester les éléments de ce nouveau système avant que la Corée du Nord ne procède à un lancement à pleine portée et qu'il pourrait essayer de faire passer pour un lancement spatial, a-t-il ajouté. En réponse, les États-Unis vont annoncer ce vendredi des mesures pour empêcher la Corée du Nord d'avoir accès à des produits et technologies étrangères lui permettant de développer ses programmes d'armement interdits, et d'autres actions suivront dans les prochains jours, ajoute cette source qui a requis l'anonymat.
L'invité.
Le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, PADRIR, en sigle, a été lancé hier jeudi à Mbujimayi par le secrétaire général au ministère de l'Agriculture. Ce projet qui s'étale sur 7 ans sera mis en œuvre dans les provinces du Maniema, du Kasaï oriental, Kasaï central et Lomami. Il bénéficie du financement à hauteur de 130 millions qui proviennent du gouvernement de la RDC, du Fonds international pour le développement agricole FIDA, de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique BDA. Alors, Madame Gisèle Tabou, coordonnatrice nationale du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, on parle avec Esther Dalafina.
Bonjour Madame Gisèle Tabou, vous êtes la coordonnatrice nationale du projet PADRIR. C'est un projet d'appui au développement rural inclusif et résilient. Et vous êtes venue en Mbujimayi pour expliquer le projet. Qu'est-ce que signifie ce projet PADRIR?
Le PADRIR est une initiative du gouvernement congolais dans le secteur de l'agriculture. Il s'agit d'un projet qui couvre 4 provinces. Le PADRIR est une mise à l'échelle d'un projet qui a été mis en œuvre dans les années précédentes dans la province du Maniema, qui s'appelait PIRAM. Avec le PADRIR, il s'agit là d'un financement de 130 450 000 dollars. C'est un cofinancement du FIDA, de BADEA ainsi que de OFID, auquel s'ajoute une contribution du gouvernement congolais. Et le PADRIR se veut un projet à mode participatif. Donc les bénéficiaires des 4 provinces contribueront à la réalisation du programme, notamment avec des apports en nature sur les travaux.
En quoi consiste ce projet?
Le PADRIR a 2 composantes opérationnelles. La première composante vise à renforcer essentiellement les aspects liés à l'amélioration de la productivité et des revenus dans le secteur de la production agricole. Nous allons améliorer l'accès aux intrants, faciliter la commercialisation et aussi aider à structurer les différents acteurs, avec ici l'objectif de faire participer les jeunes, les femmes dans les différents segments de la chaîne de valeur agricole, mais aussi de renforcer tous les aspects liés à la nutrition, de contribuer de manière plus substantielle à l'inclusion sociale. Le PADRIR a reçu un financement financement du Fonds international pour le développement de l'agriculture, FIDA en sigle, et le FIDA travaille dans les pays où il intervient essentiellement sur une approche de résilience du milieu rural. Avec les changements climatiques, nous visons aussi à renforcer cette résilience des producteurs. Dans sa deuxième composante, le PADRIR va mettre en place les infrastructures de commercialisation dans le cadre de l'approche qui a été convenue et agréée entre le gouvernement congolais et le FIDA. Nous voulons aujourd'hui travailler à avoir un environnement rural qui est suffisamment résilient et attractif. Donc c'est ainsi que lorsque nous parlons d'infrastructures, nous voyons des infrastructures qui sont destinées essentiellement à faciliter la chaîne logistique, la chaîne de commercialisation, faire arriver la nourriture dans les centres de consommation, mais aussi nous abordons aussi la question des infrastructures sociales. Nous visons d'améliorer la nutrition. Nous allons travailler sur la construction ou la réhabilitation des centres nutritionnels, des centres de santé ou des hôpitaux. Nous travaillons aussi avec le secteur de l'éducation à travers la réhabilitation d'écoles et l'intervention sur des programmes scolaires afin de créer une nouvelle vision de citoyenneté, de leadership et d'appropriation du monde rural.
Il y a eu aussi des projets tels que Pressar, Prise, qui est opérationnel jusqu'à maintenant, et même pas dire quelle est la différence, parce que nous voyons que les domaines d'intervention sont presque le même. Qu'est-ce que PADRIR va apporter de nouveau?
Je peux dire que la différence, c'est que d'abord, dans le cadre de PADRIR, nous faisons de l'agriculture, mais tout en ayant une vision globale et intégrée avec les différents autres secteurs. Nous voulons justement promouvoir cette chaîne de valeur-là qui part du champ, qui travaille sur les aspects post-récolte, les aspects de commercialisation, sur des aspects de nutrition et d'éducation, par exemple. Et en même temps, nous nous intéressons à la question de la résilience face au changement climatique. Nous visons à rendre beaucoup plus performants les entités qui sont les acteurs principaux et en même temps les bénéficiaires du projet. Par exemple, les centres de l'INERA, Ngandajika, qui sera automatiquement intégré pour accompagner le projet. Ce que PADRIR amène en plus, c'est cette approche, par exemple, de renforcer les infrastructures sociales.
Madame Gisèle Tabouléa, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin de ce journal, coordonné par Noëlla Louzitou et Pierrot Elameji, mis en onde par Alain Goy et présenté par Jocelyne Moussaou. Merci de nous avoir suivis.